les eaux fleurissent. Rie, entrez, la vie est un délice. Rie, bambelle d'enfant, regard complice.
Les éclats de lire. Une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 25 et 26 mai 2024 au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio.
Toujours un grain de sel dans nos vies.
Les éclats de lire. Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui je suis au téléphone avec Romain Bernard. Bonjour Romain.
Bonjour.
Bonjour, alors arrêtez-moi si je me trompe, mais vous êtes auteur-illustrateur et vous avez publié aujourd'hui 3 albums pour la jeunesse.
Oui, c'est ça, c'est bien ça.
On va bientôt en parler, mais avant que j'aimerais que vous nous présentiez 2 livres que vous aimez beaucoup au point peut-être de les jalouser.
oui, ben, enfin de les jalouser, enfin en tout cas... De me dire qu'effectivement, si je pouvais faire un livre, enfin là en l'occurrence c'est 2, mais c'est 2 livres qui sont vraiment reliés, un livre qui exprime ce genre de sentiment, j'en serais très content. Voilà.
Alors que font les petites filles aujourd'hui et que font les petits garçons aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez présenter cette petite série du coup?
Oui, donc ce sont 2 livres de Nicolas Sedelbach que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je ne connaissais pas en fait très bien cet auteur, cet illustrateur. Et j'ai découvert les 2 livres d'abord parce que on m'a prêté un livre de cet auteur en fait qui ressemblait à ces 2 livres-là. Et puis en cherchant autour de cet auteur, je me suis rendu compte qu'il avait fait ces 2 livres. Sur les enfants en fait, et c'est des enfants qui ont des activités, on va dire un peu inattendues, parfois même choquantes pour des adultes, parce que c'est des livres qui laissent personne indifférent, et voilà.
Super, moi je conseille aux auditeurs d'aller découvrir ces livres-là, s'ils sont toujours disponibles.
Oui, ils le sont, oui. Aux grandes personnes.
Super, merci pour la référence aux éditions Les Grandes Personnes. Alors, Romain Bernard, vous avez commencé votre carrière dans l'illustration plutôt en faisant des commandes et pas immédiatement des albums. Je sais que vous avez fait pas mal de couvertures de livres. Alors, je ne sais pas si vous avez fait d'autres commandes, mais est-ce que vous pouvez un peu nous parler de cette première partie de votre travail dans l'illustration?
Oui, en effet, j'ai commencé à faire de l'illustration un peu en parallèle de mon précédent métier qui était infographiste, pour lequel j'étais salarié dans une agence. Et donc j'ai commencé à faire des commandes plutôt dans le graphisme, en tout cas pour des pochettes de disques. Donc c'était quelque chose que je faisais vraiment en parallèle. Donc une toute petite activité que j'avais, que je développais un jour par semaine ou même moins. Et quand je me suis vraiment lancé à mon compte, quand j'ai quitté ce travail, je me suis plus mis à faire de l'illustration, qu'on pourrait qualifier d'illustration jeunesse, ou en tout cas qui pouvait s'en rapprocher, et donc à illustrer les couvertures, pas forcément que pour la jeunesse d'ailleurs, mais aussi des articles de presse.
D'accord. Voilà. Et est-ce que c'est une activité qui vous permettait d'être créatif suffisamment pour vous?
Oui. En fait, quand je le faisais en parallèle de mon travail salarié, c'était un peu une soupape de créativité, parce que mon travail n'était pas très créatif, même si c'était de l'infographie, ça restait quand même de l'image, mais c'était très maîtrisé, très normé, puisque c'était pour des architectes. Et donc c'était vraiment la soupape de créativité, et donc quand je me suis mis à mon compte, que je me suis lancé tout seul, l'idée c'était vraiment de poursuivre cette activité vraiment plus créative, mais une plus large partie du temps.
Et vous étiez avant ça infographiste pour un cabinet d'architecte, c'est ça?
Oui, c'est ça. Enfin, c'était pas pour un cabinet d'architecte, mais c'était pour une agence qui elle-même travaillait uniquement pour des cabinets d'architecture.
D'accord, de la sous-traitance. Mais vous avez gardé quelque chose de cet aspect-là dans votre travail, peut-être?
Oui, je pense que ça m'a quand même permis de pas mal m'intéresser à la composition des images et notamment des paysages, voire même des paysages urbains qui sont quand même assez présents dans mes images, alors dans mes livres, mais pas forcément tout le temps dans mes livres, mais même dans des images que je peux faire pour moi ou des recherches personnelles. personnel, j'ai tendance à vraiment aimer dessiner des villes, en fait.
Ouais.
Donc ça, je pense que ça vient de là, et la manière de composer une image aussi, parce que c'est vraiment ce qu'on faisait, en fait.
D'accord. Alors justement, voilà. Une ville, il y en a dans Chromopolis. C'est le premier album que vous avez publié. Je ne sais pas si c'est le premier que vous avez réalisé également. Souvent, enfin, parfois ça change.
Oui, alors non, c'était pas. Enfin, je l'ai réalisé en parallèle. Ça a vraiment été en fait mes deux premiers Chromopolis et Jour après jour.
D'accord.
J'ai travaillé sur les deux un peu en même temps. Et j'ai quand même commencé par travailler sur Jour après jour alors qu'il est sorti en deuxième.
Bon, on parlera quand même de Jour après jour. Juste
oui.
Après, déjà Chromopolis, alors c'est édité par Maison Elisa. C'est une petite maison nantaise.
Oui, alors parisienne à la base, même je pense que leur siège et leur activité est toujours, il me semble, à Paris, mais c'est vrai qu'elles ont déménagé à Nantes.
D'accord, donc c'est récent.
Voilà.
Bon.
Ouais.
Et c'est l'histoire d'un monde en noir et blanc, dans lequel il n'y a pas de couleur, elle n'existe pas, jusqu'à ce que la science fasse des progrès et invente la Chromolux. Alors, c'est quoi la Chromolux ?
Bah, dans mon imaginaire, ce serait une lumière qui permettrait de révéler la couleur dans un monde en noir et blanc et de façon très, très tranchée, vraiment avec un faisceau de lumière un peu caricaturale.
Un instant, parce que je viens de recevoir un SMS qui me dit qu'on ne vous entend pas à la radio et qu'il y aurait peut-être un problème technique.
Ah. Donc, depuis le début, du coup.
Je sais pas, c'est possible, oui. Alors, on va reprendre. Romain Bernard, pardon pour les auditeurs, il y avait un problème technique. Vous avez raté le début de l'interview. On va reprendre juste avec Chromopolis, qui est publié chez Maison Elisa, une petite maison d'édition. C'est l'un de vos premiers projets éditoriaux. Et c'est l'histoire d'un monde en noir et blanc dans lequel la couleur n'existe pas, jusqu'à ce qu'on invente la Chromolux. Donc, on va expliquer aux auditeurs ce qu'est la Chromolux.
Donc c'est une lumière qui révèle la couleur dans un monde en noir et blanc. Et la manière dont je l'ai imaginé, c'est très, très visuel, c'est très caricatural, c'est vraiment un faisceau, comme on peut l'imaginer quand on dessine un faisceau de lumière, avec deux traits, et entre ces deux traits, il y a de la couleur, à l'extérieur, il n'y en a pas.
Ouais. Et d'où ça vous est venu, cette idée d'un monde en noir et blanc ?
Bah, en fait, c'est une idée qui m'est vraiment venue un peu par accident en faisant une image. Parce que la manière dont je dessine, c'est que je fais d'abord un crayonné plutôt précis. J'ai tendance à vraiment essayer d'avoir un crayonné très précis, un peu comme un livre de coloriage, vraiment avec des traits très marqués, voilà, où j'ai juste après à remplir avec de la gouache les zones de couleur. Je fonctionne vraiment comme ça, comme un cahier de coloriage. Et en fait, tout simplement, un jour, en faisant une image, en n'ayant que le crayonné et une partie en couleur, je me suis dit que c'était intéressant d'imaginer que cette partie en couleur, ça pouvait être une lumière.
D'accord. Et alors, c'est l'histoire de l'arrivée de la couleur hein, dans une ville et même dans un monde entier. Mais ça suit quand même une petite fille qui va découvrir cette arrivée. Alors, au début, c'est vraiment réservé aux élites ou alors aux écoles. C'est pas accessible à tout le monde. Et puis, la couleur s'installe de plus en plus. Donc, on peut faire beaucoup de parallèles. On en parlera un peu plus tard. Mais ça pour dire qu'il y a toute une partie de l'album en noir et blanc et toute une partie en couleur à chaque fois que la lampe est clair ou à chaque fois que ce dispositif se développe dans un endroit. Et justement, comment vous avez choisi les couleurs de cet album ?
Ben, les couleurs, j'avais vraiment envie d'avoir des couleurs assez limitées, une gamme de couleurs vraiment très limitée. Je travaille pas forcément comme ça tout le temps. Des fois, je me laisse vraiment guider, et je fais des mélanges et je peux avoir vraiment plein de couleurs différentes sur une même peinture. Et là, j'avais vraiment envie d'essayer de me limiter à quelques couleurs parce que je voulais pas des couleurs réalistes. En fait, je voulais vraiment que l'endroit où se passe cette histoire, un lecteur ou une lectrice puisse tout de suite se rendre compte que c'est quelque part qui n'existe pas, un endroit qui n'existe pas. Donc, ou en tout cas, voilà, un monde imaginaire. Et sans forcément l'expliquer, sans forcément avoir à l'expliquer par l'histoire. Donc au début c'est en noir et blanc, on se rend juste compte qu'il y a des animaux dans la ville qui sont un peu bizarres. Et donc on voit tout de suite qu'on n'est pas dans le monde normal. Et quand la couleur arrive, on se rend compte que le ciel est jaune par exemple. Voilà, les couleurs ne sont pas spécialement réalistes.
Oui, il y a beaucoup de c'est des couleurs pastel quand même un peu. Il y a beaucoup de roses, de jaunes et un très beau vert, un peu turquoise. Parce que vous, ouais, vous composez les couleurs à la peinture, du coup, à la gouache.
Oui, oui, oui. Ouais. Et c'est vrai que je me laisse un peu guider par, bah, par mes choix de peinture. En fait, c'est marrant parce qu'au final, c'est un peu la limite de... Comme j'achète des couleurs déjà prêtes, avec des pigments assez forts, je fais pas du mélange de couleurs primaires, j'achète des couleurs toutes prêtes. Et c'est des petits tubes qui coûtent assez cher, donc j'en achète pas 10 d'un coup. Donc mes images, finalement, suivent un peu le cours des tubes que j'achète au gré de mes envies quand j'arrive au magasin de couleurs, quoi. C'est un peu comme ça que ça se passe.
Et quand vous travaillez, est-ce que c'est à la même échelle que l'album? Ou alors c'est beaucoup plus grand?
Non, c'est généralement plus grand, ouais. Mais pas forcément oui. Beaucoup plus grand. Sur Chromopolis, je me souviens pas exactement, mais il me semble que c'est un peu plus grand. Et pareil pour Jour après jour. Et mon troisième album, là par contre, c'est vraiment beaucoup plus grand. Donc ça va dépendre du projet. Et puis ça va dépendre aussi de si j'ai une idée du format avant ou pas.
Oui, bien sûr.
Parce que quand je commence le projet, je peux ne pas avoir d'idée du format. Donc je fais quand même plutôt grand.
Mais sur Chromopolis, vous avez quand même des détails assez, assez précis, assez fins. Hein.
Oui, mais je pense que c'est... Effectivement, Chromopolis, les images qui sont souvent en double page sont déjà assez grandes parce que l'album est assez grand, c'est un A4, un peu plus grand qu'un A4 je crois, et donc ça fait du A3 en double page, c'est quand même déjà assez grand, c'est confortable, oui. Et je pense que j'avais fait un peu plus grand tout simplement parce que j'imaginais un livre qui pouvait être un peu plus grand, et que voilà, je sais qu'on peut pas trop agrandir, on peut un peu mais moins, donc j'essaye toujours quand même de, quand j'ai pas encore d'idée du format, de pas me limiter, de faire assez grand pour qu'on puisse se dire bon bah le livre sera grand.
D'accord. Alors ouais. C'est un monde en noir et blanc où peu à peu la couleur s'installe, et vous évoquez un moment le besoin que la narratrice ressent de se ressourcer dans des zones blanches.
Oui.
Vous appelez ça comme ça, donc dans l'album c'est bien sûr des endroits qui sont pas encore colorés, mais on fait quand même le parallèle hein, avec les zones blanches qui sont sans réseau mobile.
Oui, bah oui, oui, c'est assez marrant parce que j'ai pas eu besoin de faire le... De souligner le parallèle puisqu'il se souligne lui-même, étant donné que c'était cohérent d'appeler ça des zones blanches.
Ouais. Que, bah voilà. Oui, ça a beaucoup plus de sens que dans d'autres mondaines ou finalement comme dénomination.
Bah oui, oui, c'est ça, ouais.
Alors, question plus personnelle, est-ce que vous avez un peu la nostalgie du monde d'avant comme la narratrice? Parce qu'à
non,
la fin, elle se construit un prototype de lampe qui va enlever la couleur et revenir comme avant finalement.
Oui, alors ça, c'est une discussion que j'ai souvent avec des élèves quand je rencontre, enfin des enfants quand je rencontre, quand je fais des rencontres scolaires. Et pour moi, c'est vraiment la narratrice, elle a pas forcément, alors elle a forcément un peu de nostalgie, mais comme tout le monde, je pense qu'on est tous un peu ambivalents là-dessus, on peut avoir un peu de nostalgie et puis se dire, bah oui, mais en même temps, il y a des choses qui sont mieux quand même. Et en fait, elle a plus l'idée d'inventer ce prototype qui remet le monde en noir et blanc pour montrer aux enfants comment c'était avant, parce qu'elle se rend compte qu'elle ne peut pas leur faire comprendre vraiment comment c'était avant. Mmh. Et ça, c'est plus quelque chose que je me dis, moi, souvent. Et c'est intéressant de discuter avec des enfants et de se rendre compte que se disent « Ah bon, mais t'as connu un monde sans Internet, un monde sans téléphone ?» Enfin, c'est très abstrait en fait quand
c'est
on
vrai
l'a pas connu.
Voilà, ça peut être très dur à imaginer. Ça s'est répandu oui, très rapidement, comme la couleur dans ce livre.
C'est ça. Donc c'était plus ça que je veux surtout pas donner d'avis sur le fait que ce soit mieux avant ou pas mieux avant, parce que voilà, ça c'est après au lecteur, à la lectrice de se faire son avis.
Ouais, ok. Merci beaucoup. On va passer à la première pause musicale de votre sélection.
Oui.
La comédie ou le drame peut de nouveau hisser pavillon. Carnaval, la ville remplie de silhouettes matinales, de diagonales. Tambour, es-tu le bon tambour? Tambour. cheval. J'ai vu l'envers, l'envers de l'homme. Carnaval, je marche plus, je marche plus. Carnaval, tu m'as ôté jusqu'au bec. Il me faudra des babioles. Sans les oiseaux, oiseaux dans le ciel, hirondelles sous les toits dans leur niche. Quatre marabouts, quatre derviches. Si je dois casser ma pipe, car ceci est une pipe. Seras-tu jamais lavé de tes doutes? Tout, tout, que dalle. Tout, 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 que dalle. Tout, que dalle. Tout,
alors j'ai une bonne nouvelle, le début de l'émission a bien été enregistré et sera disponible sur la rediffusion qui a lieu dimanche à 11h et sur les podcasts, donc sur Radio Escapade et sur l'audioblog Arte où vous avez toutes les émissions des Éclats de Lyre. Et Romain Bernard, toujours au téléphone ?
Oui, toujours là.
Superbe. Alors on va parler de jour après jour à présent et effectivement, quand vous disiez que vous aviez des couleurs très précises, que vous n'aviez pas les mélanges, on en retrouve quelques-unes et comme vous travaillez sur ces deux albums en même temps, voilà, on fait bien le lien.
Oui, oui, oui. Oui, je pense qu'on peut même faire le lien avec le troisième parce qu'il y a certaines couleurs que je garde un peu depuis le début comme
des couleurs fétiches. Et ça vous fait du coup un style assez personnel qu'on peut repérer, c'est chouette. Alors, jour après jour, c'est publié chez La Martinière, donc plus grosse maison d'édition un peu. Et je vais lire le résumé de l'éditeur. C'est l'histoire d'un paysage qui change au fil des saisons et des années, vu par un petit... Alors non, pas du tout. C'est mon résumé, c'est pas celui de l'éditeur. C'est pour le prochain, je crois, que j'ai pris le résumé de l'éditeur. C'est l'histoire d'un paysage qui change au fil des saisons et des années, vu par un petit garçon qui grandit et vieillit. Jusque-là, c'est assez classique. Mais le narrateur, c'est un autre personnage. Et le narrateur, il va donc raconter au lecteur ce que le petit garçon lui a même raconté. On ne sait pas qui est ce personnage, il est un petit peu mystérieux. Il se révèle qu'à la fin de l'album et ça apporte une grande surprise et beaucoup de charme et de drôlerie à l'album. Alors, peut-être qu'on pourra le divulgâcher, je ne sais pas. Mais pour commencer, Romain Bernard, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cet album ? Que représente chaque planche ?
Que représente
chaque planche, chaque double page ?
Chaque planche. Oui, bah chaque double page, on a un temps qui est passé sur effectivement ce paysage qui est toujours montré sous le même point de vue, vraiment exactement le même point de vue. Et ce temps peut être plutôt court au début et de plus en plus long, en fait, ça s'accélère. Donc ça peut être, on peut imaginer une saison, et puis après c'est plusieurs années, et après c'est vraiment, ça peut être 10 ans, 20 ans, voilà. Mais c'est toujours effectivement le même paysage, en page de droite, et en page de gauche, on a une petite action sur fond blanc avec 2-3 personnages, et cette action a bien sûr... soit des répercussions, soit des résonances avec le paysage en page de droite.
Ça permet plusieurs niveaux de narration quand même. Le paysage va raconter quelque chose, oui. Le texte et l'action également.
Oui, effectivement. Ouais. Et c'est vrai qu'au début, l'idée, c'était plutôt une idée très formelle, en fait. Je crois, il me semble que ma première idée, c'était juste la succession de paysages. et que je voulais uniquement raconter une histoire avec cette succession de paysages, l'idée des pages de gauche avec les actions est venue dans un second temps, et même l'idée du texte est venue aussi dans un autre temps, un troisième temps, parce qu'au début, je n'avais pas de texte sur cette histoire.
Et est-ce que vous aviez dès le départ cette idée incroyable de l'intrusion qui vient bouleverser un peu le rythme de l'histoire ?
Ça, c'est venu assez vite. Ouais,
je pense qu'on va dire ce que c'est. On voit le paysage, oui. il se transforme, les saisons passent, les années passent, il s'urbanise, il se désurbanise, et puis d'un coup, quand on commence plus ou moins à être gagné par la monotonie de la narration, il y a quelque chose de totalement fou qui arrive, c'est une soucoupe volante.
Oui.
Et là même, il y a une planche qui ne montre plus le paysage, mais juste l'arrivée de la soucoupe volante. Et ensuite, on voit que le paysage reprend et continue à se modifier avec l'arrivée de ces extraterrestres. Donc oui, voilà, ouais. Ma question, c'était cette idée. Est-ce que vous l'aviez dès le départ ? Est-ce que c'était, vous vouliez faire ce livre-là ou c'est venu au...
Oui, c'est venu. C'est vraiment l'idée de l'irruption comme ça des personnages inattendus. C'est venu assez rapidement. Je pense que c'est venu quand même à partir du moment où j'ai commencé à travailler sur les pages de gauche, enfin à rajouter ce deuxième niveau de lecture avec les actions. Donc vraiment, la toute première idée, c'était juste des paysages qui s'enchaînent, et je pense qu'il y avait un début, une fin, pas d'interruption. Et rapidement, quand j'ai commencé à décrire ces actions, à faire vivre ces personnages, j'ai eu l'idée de mettre quelque chose au milieu qui change tout, en fait.
Et c'est très réussi.
Merci.
Parce que cet album, je le connaissais pas. Je l'ai lu que la semaine dernière à la médiathèque et j'ai vraiment rigolé à haute voix, à gorge déployée en découvrant ça. Donc ça a vraiment marché, ouais, ça a bien fonctionné.
Super. Oui, en général, on me dit que c'est assez qu'on s'y attend pas, effectivement. C'était un peu le but.
Ouais, c'est super. Ouais. Alors le paysage, j'ai vite brièvement évoqué qu'il est super urbanisé. Moi, au début, ça m'a un peu choquée, même scandalisée, de voir ce beau paysage de campagne avec une petite ferme se peupler, avec plein de constructions, d'un chemin de fer qui arrive et tout. Mais votre narration, qu'elle soit textuelle ou visuelle, ne laisse rien paraître d'une nostalgie éventuelle. Et je voulais savoir si c'était fait exprès. Si...
Oui. Enfin, c'est pas que c'est fait exprès, mais je pense que c'est toujours un peu la même idée que pour Chromopolis, c'est
oui.
que effectivement, je pourrais très vite être tenté d'idéaliser cette campagne et de me positionner en fait, en me disant bon ben voilà, effectivement, l'urbanisation, l'industrialisation, c'est mal. Et voilà, mais en fait, ouais, j'aime bien aussi pareil, quoi, l'idée que ce soit un peu. Bah, qu'on puisse trouver du charme aussi.
Oui, alors je ne sais pas si le lecteur va faire ce constat lui-même. Moi, c'est mon cas, mais je vis dans un milieu rural, etc. Donc, je suis influencée.
Oui, bah, c'est ça. Mais après, il y a plein de lecteurs, plein de lectrices. Tout le monde est différent. Tout le monde va pouvoir un peu se l'approprier. Moi, ce que j'essaye de faire, en tout cas, c'est de laisser toujours le plus de place possible à ces lectures-là. Quoi. Voilà. S'il y a quelque chose de volontaire de ma part, c'est ça en tout cas. C'est d'essayer de laisser un champ le plus libre possible.
Et puis au final, la nature reprend ses droits, puisqu'on voit l'arbre qui pousse en plein milieu de la construction, etc.
Oui.
Fin de la soucoupe volante, ouais. Est-ce que vous êtes inspiré d'un paysage particulier pour cet album ?
Alors un peu, il doit y avoir un petit peu des paysages de là où j'ai grandi, je grandis dans le Cantal. Donc voilà, moi j'ai quand même grandi dans une ville, Aurillac, donc un paysage plutôt urbain, mais voilà, je sais que mon père a grandi vraiment dans la campagne, vraiment, campagne profonde cantalienne, et c'est des lieux que j'ai vus, les lieux où lui a grandi et qui m'ont pas mal inspiré, il y a des montagnes autour, enfin voilà, ça peut être assez proche, tout en étant pas du tout pareil, surtout au niveau des couleurs.
Ouais. Oui, bien sûr.
Mais oui. Ouais.
Parce que oui, au début, les couleurs sont assez naturelles. Et puis après,
oui.
On retrouve ce rose magnifique qui s'installe un peu dans les paysages de nuit.
Oui, quand même, ouais. Toujours.
Pour cet album ou pour d'autres, hein, peu importe, est-ce que vous réfléchissez à votre lectorat et à son âge quand vous composez, quand vous travaillez ?
Ben, pas trop, je crois. C'est vrai que c'est une question qui est souvent posée et qu'on entend aussi poser à d'autres. Et du coup, moi, je sais jamais. En fait, c'est quelque chose auquel je réfléchis pas vraiment. Mais des fois, je sais que quand je travaille, j'ai des petits rappels comme ça de me dire, de me demander quand même, de me dire, il y a un lectorat derrière, comment ça va être perçu. Après, ça qui est bien aussi, c'est qu'on ne travaille pas seul. Donc, voilà, en général, je me fie à la personne avec qui je travaille, en l'occurrence, pour chaque projet, à chaque fois, c'est une éditrice différente, mais à chaque fois, je me suis fié à ce rapport avec l'éditrice aussi. Voilà. Mais ça dépend des moments. Mais voilà, en tout cas, c'est pas une ligne directrice. Il n'y a pas de... Je me dis pas, il faut que je parle de ci, ou il faut que je parle de ça, ou il faut que je m'adresse sur tel ton au lecteur, ou voilà.
Heureusement, il y en a qui font très bien leur travail dans les maisons d'édition pour trancher un petit peu là-dessus. Et très souvent, les albums ont une tranche d'âge indiquée, mais elle varie énormément et le lectorat se diversifie.
C'est ça, exactement, ouais. Oui, tout à fait.
Vous l'avez dit justement, vous travaillez avec différents éditeurs, voire même éditrices, en général surtout. Donc avec trois albums, trois maisons d'édition différentes, est-ce que vous voyez des grosses différences dans les manières de travailler ?
Alors oui, il y a des différences dans les manières de travailler de chacune, parce que c'est trois personnalités, moi les trois avec qui j'ai travaillé, c'était trois personnalités différentes. Donc ça apporte forcément des différences dans la manière de travailler. Et puis après, il y a des différences de fonctionnement, parce que j'ai eu ce que je considère comme plutôt une chance, parce que c'est bien de faire des expériences différentes, trois expériences très différentes, avec des maisons d'édition de taille, très petite maison d'édition, plutôt grande maison d'édition, et voir un peu entre les deux pour la troisième. Donc voilà, ça permet de voir qu'effectivement, c'est des fonctionnements différents sur d'autres choses que le rapport direct avec l'éditrice. Le rapport direct avec l'éditrice, il est toujours un peu le même. Et il change sur la personnalité. Et après, voilà, c'est plus comment on va concevoir l'objet, comment on va concevoir sa sortie, sa promotion. Ça, c'est des, voilà, là, il y a des différences.
Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez attendre, vous, d'une éditrice ou d'un éditeur ?
Alors là, c'est... c'est vrai que je me suis posé la question, je me pose la question de plus en plus.
Bien sûr.
voilà, parce que là, c'est mon troisième livre, donc je commence à comprendre comment je fonctionne un peu plus, et je pense que moi, j'ai besoin de beaucoup, d'un rapport éditorial assez étroit, d'avoir quand même vraiment beaucoup de retours. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui ont besoin d'être plus libres,
plus autonome.
Plus accompagné.
Mais vous aimez bien recevoir des retours sur vos dessins ou sur votre texte ?
Oui, par exemple, sur le texte, c'est quelque chose sur lequel je vais beaucoup douter, donc j'ai besoin de pas mal d'accompagnement là-dessus. Voilà, ça serait mes attentes, ouais, effectivement. Et même, effectivement, sur le chemin de fer, sur la construction de l'histoire, en fait, sur vraiment le découpage de l'histoire. Ouais, j'ai besoin d'être très accompagné, je crois.
Et pourtant, vous n'avez pas, je dévie un peu, on va faire une pause musicale juste après, pourtant vous n'avez pas encore, du moins, illustré pour un autre auteur, en fait. Illustré l'histoire de quelqu'un d'autre.
Non, ça ne s'est pas présenté.
Mais ça vous intéresserait ?
Oui, pourquoi pas, ouais. Je suis curieux de le faire. Ouais.
Bon,
si
des éditeurs nous écoutent et qu'ils ont un texte en recherche d'illustrateur, allez, on va faire une pause musicale.
Thank you.
Et vous êtes toujours dans l'émission des Éclats de Lire sur Radio Escapade. Je suis au téléphone avec Romain Bernard, qui est auteur illustrateur pour la jeunesse et que nous allons bien évidemment recevoir en mai prochain au Vigan pour le Festival des Éclats de Lire. À présent, on va parler, Romain, de votre dernier album qui est sorti au printemps dernier. Ça s'appelle Notre Voyage et c'est édité chez une maison d'édition que j'aime beaucoup qui s'appelle La Partie.
Oui.
Oui, il n'y avait pas de question, mais merci d'être assidu. Donc, Notre Voyage, c'est l'histoire d'un voyage. Un adulte et un enfant imaginent un voyage à venir, un voyage en train. À travers la vitre, nous regarderons avec eux la ville s'éloigner, le paysage se transformer. Nous croiserons des animaux, inventerons des jeux et nous guetterons à travers de discrètes apparitions la mystérieuse destination, la mer. Au fil du périple, la frontière entre rêverie et réalité se brouillera. L'album de Romain Bernard, depuis le début je cite la maison d'édition bien sûr, est un voyage dans le voyage, une invitation à la contemplation et aux divagations qui nous envahissent et nous transportent à leur manière. Alors ma première question, est-ce que cet album est né d'un voyage en train, de vos souvenirs d'enfant peut-être, de voyage en train ?
Oui, ben c'est né un peu de souvenirs d'enfance, mais plus de voyages en voiture, pour le coup. Parce que pour partir en vacances, on partait plutôt en voiture. Donc il y avait cette idée vraiment de, bah, du voyage qui paraît très long quand même quand on est petit. Même si des fois, ça peut être... enfin voilà, 4 heures, ça peut paraître une longue journée. et donc de toutes ces divagations, rêveries effectivement qu'il y avait pour occuper ce temps de voyage. Et puis regarder le paysage par la fenêtre, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup plu. Et l'idée d'en faire un livre, c'est venu effectivement d'un voyage en train, entre Toulouse et Sète, pour être plus précis.
Alors comme dans Jour après jour, le champ est le même. Chaque image représente plus ou moins le même point de vue. C'est l'enfant qui regarde le paysage, mais lui, il reste au même endroit assis dans le train. Et donc le paysage défile. Et on le voit se transformer aussi.
Oui, c'est vrai qu'il y a une proximité de principe un peu formel.
J'ai trouvé une continuité, mais ça reste c'est un concept différent. Et c'est un album concept aussi, je trouve. Alors encore une fois, le personnage principal aussi, c'est pas vraiment l'enfant qui observe le paysage, mais c'est le paysage en lui-même, ou alors peut-être le voyage.
Oui, en tout cas, il peut y avoir une interrogation sur, un peu comme dans Jour après jour, sur la narration qui parle, qui raconte, de qui on parle aussi, puisqu'il y a un sujet qui est la mère, donc il y a un « L » qui apparaît au milieu. La mère qui est attendue et qui fait son apparition, donc c'est elle qui devient sujet, puisqu'à la fin c'est elle qui est là. Enfin voilà, il y a un peu ce même rapport aussi de narration où on peut chercher le narrateur, quoi. On peut se demander qui c'est.
Et encore une fois, vous avez un fort intérêt pour les paysages.
Oui, ça c'est sûr.
Vous les aviez pas tous épuisés dans Jour après jour et...
Non, enfin j'espère. J'espère, non, mais effectivement, oui, c'est vrai. Alors après, il y a peut-être aussi une petite, quelque part, je dirais une timidité de ma part à aborder les histoires à partir des personnages. Parce que c'est pas forcément ce que je maîtrise le plus, c'est pas sur ce sur quoi je me sens le plus en confiance. Au niveau du dessin, mais même au niveau de la description, de la caractérisation, d'inventer un personnage. Et donc, voilà, je me suis un peu fait violence à le faire pour Chromopolis, parce que dans Chromopolis, c'est vraiment le cas. Il y a vraiment un personnage qui est nommé, qui est décrit, enfin voilà, avec un environnement que j'ai essayé de rendre un peu consistant. Mais j'ai un peu contourné cette difficulté-là sur mes albums suivants, en abordant vraiment l'histoire. Enfin, quand jour après jour, il y a quand même un personnage nommé. Là, dans notre voyage, vraiment, je me fais plaisir à aborder l'histoire sous l'angle du paysage, à fond.
Ouais, il est même plus nommé, le personnage. Et alors, au bout d'un moment, on voit le paysage qui se transforme, ça devient très onirique au bout d'un moment, et on ne sait plus trop sur quel pied danser. On ne sait pas si c'est l'enfant qui rêve avant le voyage, pendant le voyage, il s'est peut-être endormi dans le train, ou alors si c'est juste son imagination qui travaille.
Oui. Oui, effectivement. Ben, ça, c'est une idée qui est venue dans un second temps, par contre. Pour le coup, au début, je voulais vraiment juste représenter des paysages. Enfin, non, c'est pas vraiment vrai. Parce qu'au début, la première idée que j'avais, c'était des paysages très, très surréalistes. Et c'était une première idée que j'avais mis complètement de côté. Et quand j'ai commencé à travailler sur ce livre, avec vraiment l'idée de faire un trajet, un voyage en train, je pensais juste à un défilement de paysages vus du train. Et les petits éléments un peu surréalistes, un peu oniriques, sont arrivés progressivement, en fait.
Alors, par exemple, ces éléments oniriques, dans les poteaux électriques, on peut voir des museaux de chats, je crois, ou alors des visages dessinés dans les montagnes, et plein d'autres éléments comme ça.
Exactement. Ouais. Ouais, ça s'est venu un peu comme ça, en dessinant les paysages, je me suis mis à les animer, même des fois de manière moins visible. Il y a des arbres qui peuvent faire penser à des personnages. J'ai essayé de les faire ressembler à des personnages, mais pas trop, pour qu'on doute. Oui. Pour qu'on se dise, est-ce que c'est vraiment fait exprès ou pas? Enfin, voilà. Et ça, je me suis rendu compte après coup, au fur et à mesure en le faisant, mais surtout après coup, avec des retours de petits lecteurs dans les classes, que ça donnait des interprétations très variées.
Oui.
Donc c'est plutôt chouette. Voilà, des fois c'est même assez surprenant.
Par exemple,
J'ai eu récemment celle qui me paraît maintenant la plus évidente, et je me dis oui, effectivement, c'est quelque chose que j'aurais pu faire exprès. À la fin de l'histoire, il y a un train joué dans la chambre, parce qu'on retourne dans la chambre du narrateur, enfin on va dans la chambre du narrateur, du personnage qui est censé prendre le train.
Du petit garçon.
Et donc on le voit endormi, avec ses jouets dans sa chambre, et il y a un train miniature. Et donc comme il y a la main de l'enfant qui est au-dessus du train miniature, des enfants dans des classes m'ont dit, pour eux c'était évident, que le personnage qui fait le trajet, il est dans le train miniature. Et que tout se passe dans la chambre.
Ouais.
Que tout le voyage qu'on vient de voir, il s'est passé dans la chambre. Donc ça, c'est pas du tout une interprétation que moi j'ai fait exprès de mettre dans
d'accord.
Le livre.
Ah, ils ont mieux compris le livre que vous, en fait.
Exactement.
Alors, pendant qu'on en est à la chambre de cet enfant, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu sa bibliothèque ?
Oui. Ben, dans sa bibliothèque, il y a des livres que j'aime, déjà.
C'est des vrais livres.
Oui, c'est des vrais livres.
Il y a des BD, des albums jeunesse, dont certains récents, qu'on connaît. Ouais.
Oui, c'est ça. Et c'est que des livres qui ont un rapport avec le voyage.
Voilà.
Dans le titre, dans l'histoire, ou voilà, de près ou de loin. Il y a trois livres d'autrices contemporaines que je connais. Et des livres que j'aime beaucoup, donc qui sont La Belle Équipée de Sophie Vissière. Il y a Bonnes Vacances Mousse de Claire Lebourg, et il y a Le Grand Départ de Charline Jiquel. Et après, il y a des livres plus anciens auxquels j'avais envie de faire référence, parce que c'est des lectures soit que j'avais quand j'étais petit, soit des livres que j'ai découverts plus tard, mais qui m'évoquent des lectures d'enfance. Oui. Donc il y a un livre de Daniel Bourg et un livre de Guy Biou.
Merci. Et dans la chambre aussi, donc il y a plein de jouets, c'est normal. Et en fait, ces jouets, on les trouve dans les paysages qu'on voit depuis le train, dans les paysages qui défilent. Ils prennent vie dans ces paysages, certains de ces jouets.
Oui, c'est ça, il y a des rappels, effectivement, et c'est pour ça que l'interprétation...
Oui, elle est géniale.
Oui, et puis elle est évidente, quoi.
C'est vraiment l'enfant qui joue avec son train et tous ses jouets dans sa chambre et qu'il est... Voilà.
Ben oui.
C'est tout à fait évident.
Oui, c'est ça.
Sur YouTube, on peut voir une interview de vous et de votre éditrice chez La Partie, et on voit une version des planches de l'album. C'est pas exactement les mêmes dessins et le texte est en anglais. Alors je voulais savoir de quoi il s'agissait, si c'était une première version de l'histoire ou pas.
Non, alors ça, c'est une version de travail. Parce que pour ces trois livres, en fait, mes trois premiers livres, j'ai travaillé avec une agente éditoriale. Qui est anglophone, enfin qui est italophone, mais en échange en anglais. Mmh. Et donc c'est avec elle que j'ai travaillé vraiment ces projets avant de les présenter à des maisons d'édition. Il y a eu un vrai travail pré-éditorial avec elle. Et donc ça, c'était un extrait du document de travail avec le texte en anglais avant qu'il soit présenté à des maisons d'édition. Parce qu'elle, potentiellement, pouvait le présenter à des maisons d'édition francophones, mais aussi étrangères.
D'accord.
Donc voilà. c'est pour ça qu'il est en anglais.
Mais le dessin a bien changé aussi.
Et les images sont différentes, et ça, c'est la manière que j'ai eu de travailler avec elle. Donc là, maintenant, je ne travaille plus avec elle, mais je pense que je vais garder cette... ce qui était chouette, c'est qu'on allait quand même assez loin avant de présenter le projet. Et donc, ça m'a poussé à faire des images sans trop me poser de questions, sans attendre d'avoir un chemin de fer. Je ne sais pas si d'ailleurs, c'était sur le fruit que j'explique. Le chemin de fer, c'est en gros le storyboard, quoi. Enfin, voilà, le brouillon du livre avec une maquette avec toutes les petites pages du livre, quoi. Et plutôt que d'attendre d'avoir ça pour faire des images plus travaillées avec elle, je faisais des images dès le début, assez travaillées, ou presque la moitié du livre, pour pouvoir montrer à quoi ça ressemblerait. Et c'est que des images que je refaisais en général derrière.
D'accord.
Parce que comme je les ai faites assez tôt, ben, il faut les refaire parce que ça correspond plus, parce qu'on a changé des choses et que c'est plus cohérent avec le reste. Mais en fait, c'est pas mal, ça m'aide à poser déjà quelque chose
et donc,
avant de vraiment m'y mettre.
Ouais, il y a des éléments oniriques qui apparaissent dans la version finale, notamment.
Dans la version finale, non, mais les éléments oniriques, je crois qu'ils étaient là dès le début.
Ouais. Enfin, il y a des choses un peu plus
dessins,
comme des lumières roses sur les montagnes ou les museaux de chat, je crois, qu'on ne voit pas forcément apparaître au début, ou moins.
Ah, c'est possible. Alors, c'est possible. Ah oui, oui, parce que ça, ces détails-là, je pense que j'en ai effectivement rajouté au fur et à mesure. Mais en tout cas, voilà, il devait y avoir au début, peut-être, effectivement, ça devait être juste le visage dans la lune ou des choses comme ça. Je pense que les premières versions, c'était juste ça. C'était peut-être moins marqué. Mais ça, c'est le travail avec mon éditrice aussi, après, qui a été déterminant là-dessus.
D'accord.
Parce qu'elle m'a vraiment poussé dans cette direction-là.
Bon, bah, c'est très intéressant de parler de comprendre un peu votre manière de travailler, mais on va faire une dernière pause musicale avant de se séparer.
Merci.
No bye, no aloha.
Bernard, on a parlé de vos trois premiers albums édités chez trois éditeurs différents, éditrices même peut-être. Est-ce que vous avez un projet d'album en cours maintenant ?
Oui, je travaille sur un projet, ouais, d'album.
Super. C'est peut-être trop tôt pour en parler ou alors vous avez déjà une date de sortie prévue ?
Non, alors pas de date précise, mais ce sera a priori plutôt en 2025.
D'accord, bon, on a un peu de temps à attendre malheureusement. Et est-ce que vous avez autre chose dans votre actualité, peut-être un salon à venir, une expo ou d'autres choses ?
Non, alors pas de... J'ai pas d'actualité en ce moment.
Bon, alors il faudra attendre les éclats.
J'ai rien de prévu de notable. Et je pense que je vais justement essayer de refaire des couvertures. J'aimerais beaucoup retravailler pour des couvertures de romans. Donc, je vais me repenser là-dessus.
Alors, par exemple, pour les couvertures, vous travaillez avec des éditeurs précis ou ça change tout le temps ?
Ben, ça change parce que il n'y a pas tant de... Enfin, il n'y a pas tant de sorties que ça, en fait. Enfin, c'est dur d'avoir une collaboration très régulière, parce que même une collaboration régulière, ça peut être très espacé. Voilà, il y a des maisons d'édition avec lesquelles j'ai travaillé plusieurs fois, mais il peut se passer un an, deux ans entre les deux. Donc voilà, mais en jeunesse, j'ai fait des couvertures pour l'école des loisirs ou les éditions du Rouergue. Voilà, après, il y a des maisons d'édition aussi en littérature générale. Il y en a de plus en plus qui ont des couvertures illustrées aussi.
Oui, d'accord. Voilà. Oui, parce que vous en avez fait pas mal quand même des couvertures. On peut les voir sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez juste donner l'adresse pour les auditeurs, s'il vous plaît ?
Oui, donc, c'est romainbernardtoutattaché.com.
C'est très simple. Merci beaucoup. Alors, avant de se quitter, un petit mot sur votre mot, justement, préféré.
Ah oui, c'était millefeuille.
C'était millefeuille.
Alors c'était quand même vraiment beaucoup parce que j'aime les millefeuilles. Mais puis parce que je trouve ça un mot assez joli. Et puis les mots composés aussi, j'aime bien les mots composés. Puis c'est marrant d'utiliser deux mots qui existent déjà pour définir quelque chose.
De nouveau encore. Puis millefeuille, on peut toujours le rapprocher au dessin d'une manière ou d'une autre.
Oui. Exactement.
Eh bien, merci beaucoup, Romain Bernard. On se retrouvera au printemps, les 24 et 25 mai, pour les éclats de lire au Vigan.
Oui, avec plaisir.
Merci, au revoir.
Merci, au revoir.
C'est donc la fin de cette émission et je remercie Delphine, qui est apparemment notre seule auditrice, de nous avoir prévenu qu'il y avait un petit bug au début de l'émission et qu'on n'entendait que ma voix. J'ai dû paraître un petit peu bête. Mais je vous rassure, l'interview sera diffusée en intégralité pour le podcast dimanche à 11h. Ou alors sur les podcasts que vous pouvez retrouver sur Radio Escapade, sur son site internet, ou alors sur l'audioblog Arte aux éclats de lire. Avant de se quitter, une minute pour vous dire que le jeudi 25 janvier, l'association Kamishibai, organisatrice des éclats de lire, fait son assemblée générale. Donc c'est jeudi 25 janvier à 18h30 dans la salle du Cantou au Vigan. On va faire l'assemblée générale, on va boire un coup et on va faire quelques lectures, un petit éclat de lecture autour de la sélection des auteurs et des autrices des éclats de lire 2024. Voilà, à très bientôt, au revoir tout le monde.
Ici les eaux fleurissent.
Les éclats de lire, une fête du livre jeunesse qui aura lieu les 25 et 26 mai 2024. Au Vigan. Mais c'est aussi une émission de radio.
C'est toujours un vin de sel.